פרשת החומש. Vous comprenez le mot, parasha?
Grosso modo, comme étant une préface historique à la Torah en tant que loi. Et nous voyons que les premières mitzvot de la Torah en tant que loi commencent ici, au moment de la sortie d'Égypte. Et effectivement, vous verrez en lisant attentivement ce chapitre qu'il s'agit des prescriptions pour le Pessah de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le Pessah que nous commémorons par la suite de génération en génération par la fête de Pessah. Je vous mets au tableau très brièvement deux expressions pour essayer de vous faire comprendre la différence de ces deux Pessah. Le Pessah de la sortie d'Égypte, c'est l'événement de la sortie d'Égypte et qui s'est passé à travers le rituel du, qu'on appelle en français le rituel pascal. Vous avez ces lois-là dans ce chapitre. C'est clair ? Et ensuite, dès l'année suivante, le Pessah, c'est la fête de commémoration du Pessah d'Égypte. C'est bien clair pour tout le monde ? Alors, il y a donc... Alors, l'expression qu'on a retenue dans la tradition est en araméen, mais c'est facile à comprendre en hébreu. C'est Pessah des Mitzraïmites. En hébreu, c'est Pessah chez Mitzraïm. Des Mitzraïm en araméen. Le Pessah d'Égypte et Pessah chez Dorot. Le Pessah des générations. La différence, encore une fois, c'est que les mitzvot concernant le Pessah d'Égypte, c'est le sacrifice pascal qui a été fait au moment de la sortie d'Égypte. Et vous retrouvez ce contexte en le lisant par vous-même. Lorsqu'on préparera le Pessah, vous retrouverez tous ces problèmes, chacun à son endroit. Et Pessah Shem Dorot, ça veut dire le Pessah des générations, Dor Dorot. C'est le Pessah de commémoration. C'est bien compris pour vous. Je pense que vous avez peut-être touché déjà dans le cours de Yosef Hatour du lundi soir sur le calendrier les problèmes qui concernent ce que nous allons étudier. Ça veut dire recouper et vous me direz le cas échéant s'il y a quelque chose à préciser. Alors, première remarque que je vais essayer de vous faire découvrir. Vous trouverez dans ce texte à la fois les lois, les mitzvot concernant le Pessah des Mitzrayim et le Pessah chez le Dorot. Ça veut dire que la Torah prévoit que l'événement sera commémoré. C'est bien clair ? Bon. Alors, déjà, nous sommes avertis que si l'événement doit être commémoré, c'est qu'il n'est pas complètement achevé. Un événement complètement achevé, complètement intégré, n'est plus commémoré. Comprenez bien ? C'est-à-dire que nous sommes avertis, et il faudrait étudier cela aussi, le Mafréa, un peu en arrière, quels sont les éléments du récit qui nous l'indiquent, que le moment de la sortie d'Égypte, l'événement de la sortie d'Égypte est irréversible, c'est un point de départ, mais qu'il est inachevé. C'est pour ça qu'il est commémoré jusqu'à ce qu'il soit réalisé, vraiment. C'est-à-dire, la commémoration de Pessah se rattache par le passé au Pessah d'Égypte, qui en est le principe, mais dans l'avenir, cette commémoration est en même temps l'appel ou la préfiguration du Pessah dernier, ultime, de l'achèvement de la Géoula. Je reprends d'une autre manière, mais l'idée est simple. Le chidouche que vous devez comprendre, c'est cela. Si un événement est commémoré, c'est qu'il n'est pas encore réalisé. Complètement. J'ajoute complètement pour que ce soit bien clair. Laissez-moi parler, Michel. Donc, cet événement de la sortie d'Égypte de ce temps-là, sous la direction de Moïse, dans les péripéties que la Torah nous raconte, déjà depuis le premier chapitre de Shemot, est un point de départ irréversible, mais le fait qu'il soit commémoré nous annonce qu'il n'est pas achevé. Est-ce que l'idée vous est claire ? C'est bien, c'est clair pour tout le monde ?
Non, parce que Yosef nous avait expliqué dans le calendrier hébraïque que les événements vont considérer un miracle comme totalement achevé et décider de commémorer avec un Hallel.
Eh bien, Pessah est commémoré avec le Hallel. Mais c'est pas un Hallel achevé. Il y a deux sortes de Hallel. Si je comprends bien, on n'a pas le temps maintenant pour approfondir la question du Hallel. Mais vous remarquerez qu'à Pessah, on ne dit pas le Hallel complet, sauf le premier jour de Pessah. Pourquoi ? La raison de la halakha, c'est parce qu'on prend une sorte de deuil de la mort des premiers-nés d'Égypte. Je ne sais pas si vous avez appris ça déjà. Bon, vous l'apprendrez à propos de Pessah.
Vous savez par exemple que les premiers nés d'Israël jeûnent la veille de Pessah. Vous savez. Et pendant le complément de la fête, à part le premier jour lui-même, on ne dit pas le halal complet à cause de cela. Ça, c'est la raison de la halakha. Okay. Mais nous pouvons relier à notre sujet. Je comprends plus ou moins ce que vous avez appris là avec Yosef. Ça veut dire que l'événement de la sortie d'Égypte est un tout pour lui-même. En tant que c'était la sortie de cette Égypte-là, c'est un événement achevé, complet. Okay. C'est pourquoi c'est un point de départ irréversible, on ne revient pas en arrière, d'avant d'Égypte. Okay. Mais le fait qu'on le commémore, ça implique que ce n'est pas la dernière Géoula. Et vous aurez d'ailleurs beaucoup de références dans le texte qui le montrent bien. Lorsqu'on suit le récit des événements de la sortie d'Égypte, on s'aperçoit que ça aurait pu être la Géoula ultime, et ça veut dire que le monde serait entré dans le temps messianique. En particulier les Midrashim qu'on vous a peut-être cités, qu'à partir de la sortie d'Égypte, tous les défauts qu'il y avait dans le monde commençaient à s'arranger. Ce qui était bancal, retrouver la prestance de leur marche, comment dire, ce qui était aveugle, ce qu'on était à voir, toutes les maladies commençaient à guérir, on était presque en train d'entrer dans le monde messianique. Et la faute du Vaudor a stoppé ça, a ramené tout ça en arrière. Ça vous l'apprendrez aussi, tel quel. Ça veut dire que tout se passe comme si ça aurait pu être la Géoula ultime. Et qu'à la fin de cet exil, toute cette annonce de l'éventualité de l'exil faite à Abraham, ce serait achevé, accompli, là. En fait, cet événement de la sortie d'Égypte, bien qu'étant comme point de départ irréversible un événement qui se referme sur lui-même, c'est bien clair, et le fait qu'il soit commémoré montre que la perspective de la Géoula est encore inachevée. Donc, essayez de lire par vous-même, dans tous les récits, depuis le début de Shemot, toutes les indications du texte qui indiquent qu'il y aura d'autres exils. C'est déjà dans le texte. Et il y a deux raisons. Soit que Israël n'était pas déjà lui-même prêt à être Israël des temps messianiques, soit que l'état de la civilisation des Goïms n'était pas prêt à cela. Alors les événements nous sont donnés en préfiguration d'une espérance qui est reportée pour la fin des temps. Le signe, au niveau du rite, c'est que Pessah est commémoré. Je vous donne un exemple très simple dont j'ai parlé au début de l'année, et vous allez en retrouver la signification. On ne commémore pas la sortie d'Abraham de Ur-Kasdim. Pourquoi ? Parce que c'est un événement qui non seulement est irréversible, mais complètement intégré. Alors il n'y a pas de commémoration. Vous suivez ? Parce que ce n'est pas achevé. C'est un point de départ. Quand il y aura la paix, on verra. On aura d'autres choses à commémorer après. Vous comprenez ? C'est une bonne question, mais c'est à peu près la même question. C'est clair ?
Est-ce que ça implique que c'est pas la dernière fois ?
Non, ça c'est déjà un autre sujet. La dernière fois, du point de vue de la fin des exils. Non, ça c'est un autre sujet. Il arrivera un temps où peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas dans le secret du Bédine, je vous assure Cédric, je peux t'en dire, que le Kafret Beïar, le 28 Iyar, qui est le jour de la libération de Jérusalem, prendra plus d'importance que Yom HaShoah, on n'en est pas là, mais c'est un peu comme ça que ça arrivera. De toute façon, c'est clair que Yom HaShoah, c'est un très bon exemple, c'est un point de départ irréversible, mais ce n'est qu'un point de départ. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire l'objectif de la Géoula n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Ça a commencé, c'est irréversible, puis ça a commencé. Mais ce n'est pas que ça qu'on attend. Voilà, ça peut très bien éclairer. C'est clair ? Donc. Et alors, il y a deux versets qui introduisent ce chapitre de Mitzvot concernant les lois de Pessah de Mitzrayim et les lois de Pessah des générations. Ces deux versets, nous allons les lire ensemble, et qui établit le principe de base du calendrier hébreu que les mois sont comptés d'après la révolution de la lune. Vous y êtes ? Ça, vous avez dû apprendre avec Yosef au début. Alors, reprenons ces versets. Dès le premier, le verset 1. Vaïdaber, Estira, Vayomer Hashem, El Moshe, Vel Aaron, Beret Mitzrayim, Lemur. Retenez bien ça. Je vais utiliser ce verset tout à l'heure dans une étude plus large. Allez, tout le monde a le verset sous les yeux ? même ceux qui n'ont pas. Bon, alors, Vayom et Rachem, et Moshe, et Aaron, Berek et Tsraïm, et Dieu s'adressa à Moïse et à Aaron, Beret Mitzrayim, dans le pays d'Égypte, les morts en disant. Vous suivez? Alors, dans ce verset, il y a une indication importante. C'est que la révélation des mitzvot s'adresse simultanément à Moïse et à Aaron. Vous suivez bien? Vous suivez? Ça va? Okay. Ça veut dire qu'il y a une participation d'Aaron au mérite de Moïse d'avoir obtenu la sortie d'Égypte. Donc c'est un sujet pour lui-même auquel je vous demande de réfléchir. Okay. Vous verrez d'ailleurs Rachi à ce sujet. Nous sommes surtout habitués au verset par la suite, et Dieu s'adressa à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. » Okay. Mais là, nous sommes avertis que la révélation a lieu en réalité à travers et Moïse et Aaron. Okay? Dans certains autres versets qui le rappellent, il y a Aaron avant Moïse, ici c'est Moïse avant Aaron, et le Midrash en tire la conclusion qu'ils sont égaux de mérite. Et pourquoi on s'est finalement habitué à appeler la Torah Torah de Moshe et pas Torah d'Aaron? Ça c'est un sujet encore pour lui-même. Peut-être je vais vous en parler, ça ne fait rien si je n'arrive pas à vous faire étudier ce que j'avais préparé. Si j'ai parlé de ça, c'est un sujet important. Quelle est la connaissance que nous avons, pour le moment, dans l'état des connaissances que nous avons, de Aaron? Quelle est l'idée qui vient avec Aaron? C'est le... Non, c'est Moïse qui est le porte-parole. Qu'est-ce que va devenir Aaron à la sortie des livres? Le grand prêtre. Okay. Le grand prêtre du culte des sacrifices d'expiation. Et alors que Moïse est lui l'homme de la Torah, mais qui n'a pas comme pour objectif que s'il y a eu une faute, il faut l'expier. Ça va être le tafkid d'Aaron. Okay. Mais que comment faut-il se conduire pour obtenir le projet du Créateur, en fin de compte la Géoula. Après, je vais vous donner des mots plus précis. Dans ce métier d'homme, ce métier d'Israël, il arrive que des fautes soient faites, alors Aaron intervient pour l'expiation. Okay. Mais l'objectif, ce n'est pas la Torah d'Aaron, comprenez, je dis en hébreu, ça me gêne les mots français, la Torah d'Aaron, je mets un accent particulier dans cette expression, une Torah dont le foyer, dont la préoccupation essentielle serait l'expiation des fautes. C'est clair? Parce que l'objectif, ce n'est pas « faites des fautes, je vous en prie, que j'ai à vous les expier. Okay. » Vous avez compris le problème? C'est clair? Alors, nous avons deux axes. La Torah, selon Moïse, c'est le tikkun haolam, ce qu'il faut faire pour que le chaos du commencement finisse par s'achever, pour que le monde se restaure, pour que la Géoula soit possible. C'est l'aspect, disons, le vocabulaire est un peu trop schématique, mais disons l'aspect positif de la Torah, le tikkun haolam. Dans ce métier de tikkuniseur du haolam, si je veux dire, il y a des fautes de métier, des fautes. Alors il faut une expiation. C'est bien clair? Alors, retenez ces deux choses, elles ne sont pas contradictoires maintenant, je pense que c'est suffisamment clair. La Torah est donnée à Israël à travers Moïse et Aaron, mais dans deux équations différentes. À travers Moïse, c'est le tikkun haolam. À travers Aaron, c'est l'expiation. C'est clair? Faites bien attention à ça. Et le judaïsme a une histoire très longue. Et il arrive que, à cause de cette longueur de temps, plus ou moins inconsciemment et sans s'en rendre compte, on déplace la définition de la Torah de Moïse à Aaron. Okay. Ça arrive dans des communautés qui sont devenues religieuses dans le sens négatif, ça veut dire qu'ils ne sont préoccupés que de l'expiation des fautes. Vous comprenez cela? Le judaïsme en noir. Je vous ai parlé un peu une fois de la religiosité espagnole, par exemple. Et chez les séfaradim d'origine, les espagnols, il y avait cette tendance à cause du paysage espagnol. Okay. Je ne croyais pas. Par cela, les vieilles familles séfarades d'Espagne ont cette tendance-là qu'ils ont pris des Espagnols de s'habiller en noir. On les voyait toujours en noir. Okay. Mais si c'était que l'habit extérieur, ça va très bien. Mais dès que la synagogue, c'est que pour faire des prières pour les morts, c'est que c'est plus la synagogue. Vous avez compris ce que c'est? voyez la ligne d'échec, c'est clair. Et vous verrez que la dominante de la Torah dans le judaïsme, c'est le Tikkun HaOlam. Et s'il y a des fautes, il faut les expier. Mais on ne souhaite pas des fautes. Okay. Tandis que dans le christianisme, la dominante, c'est l'expiation. Toute la religion, c'est que pour ça. Expier les fautes. Et même si vous n'en avez pas et vous en avez, c'est la faute du premier homme qu'on expie. Vous avez compris? C'est clair? Oui, la dominante. Alors, dans la Torah de Moïse, c'est important qu'il y ait Aaron. Mais la Torah, c'est la Torah de Moïse. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Vous avez bien compris la différence là? Une minute, si je retrouve comme ça de mémoire un passage de Jérémie, je vais vous le lire et ça me donnera une illustration. Ça doit être le chapitre 7, mais je me rappelle pas. Bon, j'ai encore oublié ma loupe. Vous avez vu la magie? J'ai rien demandé, les sorciers. Ça devrait être le chapitre 7, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est le chapitre 7, au verset 21. Alors je vais vous lire, notez la référence, vous ne verrez pas vous-même, je vais vous lire directement en français. « Ko amar Hashem Tzvaot, Elokei Israël, ainsi a dit Hashem Tzvaot, Dieu d'Israël, Olotechem, vos sacrifices qu'on appelle des holocaustes, Ola, vos sacrifices qu'on brûlait entièrement, et Sefu al Zivrechem, ajoutez-les à vos autres sacrifices, Zivrechem, c'est des sacrifices dont on mangeait la chair. Veichlou Bassar et manger la viande. Suivez bien, Kilo divartiet avotechem, car je n'ai pas parlé à vos pères, Velotivitim, et je ne leur ai pas ordonné, Beyom Otsiyotam Eret Mitzrayim, le jour où je vais sortir d'Égypte, al Dibre Rolav Azavar, au sujet des holocaustes et des sacrifices de. Qu'on appelle les shlamim, des sacrifices de. Les sacrifices. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Bon, les sacrifices à propos des fêtes, où on sacrifiait une bête, mais on pouvait en manger la viande. Alors que la rola, qui est un sacrifice d'expiation absolue, on devait le consommer totalement. Kiim est adavar azez tibitiotam. Car c'est cette parole-là que je leur ai ordonnée, les morts en disant Shimon Bekoli, écoutez ma voix. Ve'aiti lachem Elokim, et je serai votre Dieu. Ve'atem tiyu li le'am, et vous serez mon peuple. Ve'halachtem bechol haderech, asher atzave etrem lema'am itav lachem, et vous suivrez tout le chemin, la voie que je vous recommanderai, afin que vous ayez du bien. Voilà, ce passage de Jérémie est apparemment très difficile, et je vous rappelle, Jérémie était un Kohen. Alors qu'est-ce qu'a l'air de dire Jérémie? Quand j'ai parlé à vos ancêtres à la sortie d'Égypte, je leur ai jamais parlé de faire des sacrifices. Mais je leur ai demandé d'écouter ma voix. Et c'est un passage dont se sont beaucoup servis les théologiens chrétiens contre le judaïsme. Alors c'est d'une invraisemblance absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous lisez le Chumash, vous verrez qu'à partir de la sortie d'Égypte, il y a un livre entier pour parler des sacrifices, c'est le livre de Vaïkra. Et les premières mitzvot et le début des mitzvot, pour Pessah, ça commence par le sacrifice pascal. Comment Jérémie peut dire « je n'aurais jamais parlé de sacrifice », mais d'écouter ma voix et de suivre? La réponse est très simple. C'est-à-dire, je ne leur ai jamais dit, faites des fautes et alors apportez des sacrifices. Je leur ai dit, écoutez ma voix. Maintenant, si vous faites des fautes, apportez des sacrifices. Mais je ne vous ai pas demandé de faire des fautes. Donc, je ne vous ai pas demandé des sacrifices. Ça y est, c'est clair. Vous avez compris le raisonnement? Et bien, encore une fois, comment la réponse est très simple. C'est-à-dire, il y a ce risque de déplacement de mentalité qu'on ne se préoccupe plus du Tikkun HaOlam, on se préoccupe de l'expiation des fautes que cela. Alors ça devient une autre religion. Et en général, dans les communautés où ça arrive, la communauté cesse d'exister, elle disparaît. Vous avez compris? Parce que tant qu'à faire, culte d'expiation pour culte d'expiation, à la sacristie, c'est plus expéditif. Bon. Alors, retenez donc ce premier point, il y a collaboration de la force que représente Aaron à la force que représente Moïse. C'est un sujet pour lui-même. J'ajoute une deuxième indication, indépendamment de ce qu'on vient de voir. Premièrement, Moïse, c'est le chef de l'histoire de la Géoula, alors que Aaron vient comme complément indispensable Si dans cette histoire, il y a des fautes de métier, il faut les réparer. Alors on a besoin d'or.
Ça y est, c'est clair ?
Retenez bien ce thème-là, c'est important. Et un deuxième niveau, c'est que Moïse était le chef politique venu du palais du Pharaon. Alors que Aaron était le chef du ghetto des Hébreux. Il y a collaboration entre Moïse, qui est le chef historique, mais qui apparaît comme un juif assimilé. Rappelez-vous Herzl, okay ? Imaginez Herzl arriver à la rue pavée. Okay ? La réaction du rabbin. Le rabbin, c'est Aaron. Okay ? Et quelle réaction il y a eu, malheureusement, dans l'histoire, et d'ailleurs, c'est un peu ce que je veux dire, c'est un peu de façon légère. Imaginez Herzl arriver à la rue pavée, disant au rabbin de la rue pavée, vous savez, c'est l'heure de rentrer à Jérusalem. Alors, il va dire ça dans un français de la Sorbonne.
Avec un accent.
C'est ça ? Avec un accent viennois, d'ailleurs. Et le rabbin va être interloqué, il va lui dire, tu bégayes. C'est ce qu'on a dit à Moïse. Et il ne va pas entendre. Mais Aaron, lui, a entendu. Et il y a un verset, un peu plus haut dans la paracha la semaine dernière, qui indique que non seulement il a entendu, mais lorsqu'il a vu Moïse revenir de Midian pour annoncer que c'était le temps de la délivrance, le verset dit « Mais Samar Belibo, il s'est réjoui en son cœur ». Imaginez la scène dans notre temps contemporain, lorsque le sionisme politique venu du monde assimilé, Moïse sorti du palais du Pharaon, vient dire à Aaron, c'est-à-dire le rabbin de la rue pavée, je ne sais pas pourquoi je parle de la rue pavée, parce qu'il y a une vraie communauté, probablement. Elle est de bonnes intentions, pavée. Et là, sinon j'aurais pensé à la rue Cadet. Vous savez ce que c'est que la rue Cadet ? Oui, on l'appelait le judaïsme de la branche cadette. Et, la rue Cadet, c'est la communauté orthodoxe allemande. Je ne sais plus si elle est encore allemande, elle doit être maintenant marocaine. Bon. Et alors, oui, le passage des générations. Mais le rabbin doit être polonais. Et la réaction, une réaction de joie, alors que celle d'Aaron, alors que dans l'expérience, en grande majorité, la réaction de ce qui aurait dû être Aaron était une réaction de refus. Vous vous rappelez de cela ? Enfin, vous comprenez ça ? Il y a une indication de la Torah ici qui est importante. Bon, alors voilà ce que Dieu dit à Moïse et à Aaron. Alors, on lit le verset 2. « Achodesh hazé lachem » Ce mois, « Achodesh hazé » Et suivez bien, vous pouvez écrire pour assurer votre traduction. « Achodesh hazé lachem » Ce mois sera pour vous « Rosh Chodashim » Le premier des mois. Première partie du verset. Rishon Hulachem Lechotche Hashana. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Apparemment, il y a répétition. Okay? Mais je relis le verset encore une fois. Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous le début des mois. Vous comprenez tous les mots maintenant ? Achodesh Azé, ce mois, Lachem pour vous, Rosh, le début, la tête, okay? Chodashim, des mois. Et puis la fin du verset, Rishon, le premier, Hu, lui, Lachem pour vous, Lechotche Hashana, pour les mois de l'année. Alors apparemment il y a répétition, mais en réalité, il n'y a pas du tout répétition. Je vais résumer les commentaires à ce sujet, et vous aurez l'occasion par vous-même de le comprendre mieux en hébreu, comme vous saurez suffisamment d'hébreu. Traduit ainsi en français, ça a l'air d'être une répétition pure et simple. En réalité, dans la première partie du verset, « Achodesh », le mot de « Achodesh » signifie, vous avez un mot technique en français qui vient du grec, la « néoménie ». Qu'est-ce que c'est la « néoménie » ? Ça veut dire, c'est l'apparition de la lumière de la lune a son apparition, qui est le début du mois. Voilà la première partie du verset. C'est-à-dire, le mot de Chodesh, il ne faut pas le traduire le mois, comme j'ai traduit tout à l'heure, mais la néoménie, c'est-à-dire le renouvellement de la lumière de la lune. C'est clair ? C'est bien clair ? Donc, vous commencerez à compter le début du mois par la nouvelle lune. Voilà ce que ça veut dire. Parce qu'on peut imaginer un calendrier, et ça existe dans d'autres traditions, où le début du mois n'a rien à voir avec la nouvelle lune. C'est clair ? Vous pouvez avoir, par exemple, un calendrier où le début du mois serait la pleine lune, où le début du mois serait indépendant de la lune. C'est clair ? Et ensuite, Rishon Hulachem et Chodesh Hashana, et cette néoménie-là de Nissan, où on se trouve, sera pour vous les premiers mois de l'année. C'est-à-dire, et l'année commencera à Nissan. C'est-à-dire, le mois commence à la néoménie, si on a compris le mot, et l'année commence à Nissan. Ça y est pour le pshat du verset ? Bon. Alors, vous allez voir qu'il est très important que la première mitzvah donnée à Israël, premièrement, concerne la sortie d'Égypte, et deuxièmement, concerne l'institution du principe du calendrier que le mois se compte par la lune, et que c'est la lune du printemps, la néoménie du printemps, qui est le premier mois de l'année. C'est clair ? Vous suivez ? C'est ça que je vais d'abord vous expliquer. Donc, quand j'ai dit cette mitzvah de Achodesh Azelachem, Parashat Achodesh, c'est la première mitzvah que donne la Torah. Vous n'avez pas réagi, il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de mitzvot avant ?
Le Shabbat.
Le Shabbat ? Quand ? Comme mitzvah pour l'homme ? Où ?
La bride.
Très bien. Quelle bride ? Quelle bride ? La bride Mila, la circoncision. Il y a en fait trois mitzvot, indépendamment des sept mitzvot des Bnei Noach que vous avez appris. Okay. Vous vous rappelez sur un verset de Adam Arishon ? Il y a la mitzvah de la circoncision qui semble être donnée à Abraham. Et il y a la mitzvah du Guide Anaché qui commence les lois de la Kashrout avec Jacob. Okay. Et vous aviez cette objection en tête ou pas ? Pour vous expliquer une chose simple, c'est qu'il s'agit des mitzvot données à Israël en tant que peuple. Jusque-là, il y a eu quelques mitzvot données à des individus. Okay. Et puis on apprend d'autre part dans la Gemara que même les mitzvot données aux individus n'ont pris force de loi, de mitzvah, qu'à partir du Sinaï, qu'à partir du moment où Israël était une société, un peuple. C'est-à-dire qu'on pratiquait par tradition les commandements donnés aux Avot, mais pas comme commandement, comme manière d'être. Mida, pas mitzvah. Retenez bien cette notion, elle est importante et on aura l'occasion de la reprendre.
Pardon, est-ce que Shabbat était commémoré déjà ?
Oui, mais pas comme mitzvah. Je vais essayer de vous expliquer simplement aujourd'hui. Les Avot avaient une manière d'être autonome, pas autonome, c'est pas le mot, spontanée, de vivre selon la Torah. Mais pas en tant qu'il y a mitzvah à laquelle je dois obéir pour réaliser un mérite. Rappelez le cours de la Kavana sur le chemin. Okay. C'est-à-dire, la Torah est vécue par les Avot comme midot. C'est leur modalité d'être. Et cette modalité d'être des Avot va être révélée au Banim en tant que mitzvah. Le verset est très simple. Torah, tziva, lanou, moshe, ça veut dire la Torah que Moïse nous a ordonnée, morasha, keilat, Yaakov. C'est l'héritage de l'assemblée de Jacob. Bon, c'est plein de questions, mais une pour notre sujet. Entendez bien les trois premiers mots. Torah, tziva, lanou, moshe. La Torah que Moïse nous a donnée comme mitzvah. C'est l'héritage de l'assemblée de Jacob qu'il a pratiqué comme mida, manière d'être. Okay. Alors nous savons d'autre part que les Avot vivaient selon la Torah, mais pas en tant que c'est une Torah, une loi. C'est leur manière d'être. Et ils vivent, ils expriment l'identité Israël. Ils sont chacun à l'échelle d'une seule personne, tout Israël. La Torah ne s'adresse comme obligation qu'à travers le groupe, qu'à travers le clan, qu'à travers la société d'Israël, le peuple d'Israël. C'est donc quand Israël est devenu un peuple et pas simplement une addition de descendants des familles des patriarches, mais une nation que la Torah se révèle comme obligation. Le sens de l'obligation, formellement, est que l'individu doit coïncider avec l'identité du clan. Habituez-vous bien à cette idée. Pourquoi j'ai parlé de cela ? Sur quel sujet nous étions ?
Hein ?
Ah oui, qui avait des mitzvot avant, quelques-unes. Le Shabbat est rattaché à Yitzhak, mais par allusion à un midrash, c'est pas dit en clair dans le texte.